Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, je vais recevoir Marco Dubois du Rouge et Noir d'Ottawa. Marco qui est un vétéran maintenant là, du Rouge et Noir. Alors, on va dresser un profil de lui, on va lui poser quelques questions. Il y a Renaud Bourbonnais qui va venir se joindre à moi afin de jaser NFL, notamment des entraîneurs qui vont se retrouver sur un siège éjectable dès le début de la saison. La liste, elle est longue. Et oui, Mike McCarthy des Cowboys de Dallas se retrouve sur cette liste. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir faire son tour afin de jaser de fantasy football. Parce que mine de rien, là, on est déjà rendu au mois de juin. Les camps d'entraînement de l'NFL vont commencer au mois de juillet. Alors, jamais trop tôt afin de parler de fantasy football. Je vous rappelle que maintenant, on produit le podcast Le Sac du Cœur de façon indépendante. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube qu'on a lancée le mois dernier. On y va de publications, de plusieurs publications par semaine. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne rien manquer. Alors, sans plus tarder, eh bien, on va recevoir Marco Dubois du Rouge et Noir d'Ottawa. Marco, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation.
Salut Didier, merci de me recevoir.
Marco, écoute, moi je connais ton cheminement que tu as eu à la Ligue canadienne. Bon, tu es un ancien des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Mais en plus d'être un athlète professionnel, je sais que pour toi, c'était important justement de préparer ton après-carrière pendant ta carrière. Tu travailles durant la saison morte en ressources humaines. Parle-nous de ça. C'est dans ce domaine notamment que tu avais fait tes études à l'Université Laval.
Ouais, exact. J'ai été vraiment chanceux de tomber sur une entreprise qui prône des valeurs qui met le sport de l'avant. Et puis, dans le fond, j'ai rencontré Lynn Breton, qui travaille chez Du Breton. C'est une entreprise familiale qui produit du porc biologique. Il y avait une demande pour avoir un conseiller en ressources humaines bilingue. Donc, on m'a envoyé un message sur Facebook au début. C'était en 2018. Je venais de commencer avec Ottawa. Puis, je me cherchais une job pour mes saisons mortes, pour justement préparer l'après-football. Et puis, de fil en aiguille, ben j'ai passé l'entrevue, puis on m'a engagé là. J'ai commencé comme conseiller généraliste dans l'usine à Saint-Charles-de-Bellechasse. Et puis, c'est ça. Fait que je suis conseiller en ressources humaines depuis 2018. Maintenant, mon poste a évolué un petit peu, là. Je fais plus de recrutement maintenant, puis de la chasse de tête. Donc, c'est une entreprise qui me traite d'une très belle façon, puis je suis vraiment choyé d'être là-bas avec eux autres.
Ouais, puis comment tu fais pour jumeler ce travail-là avec ta carrière de footballeur? Bon, naturellement, durant la saison de football, t'es pas en mesure de travailler en ressources humaines. Tu le fais durant la saison morte. Mais quand même, tu dois t'entraîner durant la saison morte afin d'être prêt pour le camp d'entraînement. Donc, comment tu fais afin de jongler tout ça?
Ben, je pense que l'élément clé là-dedans, c'est qu'on communique bien. Là, t'sais, ils savent que ma priorité encore, c'est le football pour l'instant. C'est l'emploi qui prend le plus de mon temps et de mon énergie au cours de l'année. Mais t'sais, c'est sûr que quand j'ai des choses à remettre au bureau, ben je les remets à temps. Puis t'sais, j'ai 2 jours de télétravail. Sinon, le reste du temps, je suis en présentiel au bureau. T'sais, quand j'ai des entrevues avec des candidats, ben c'est sûr que là, je peux pas vraiment dire « Ah, j'ai un entraînement, fait que je pourrais pas faire l'entrevue. » Là, je me présente aux entrevues. Je fais ce qu'on me demande à chaque fois. Mais c'est sûr qu'il y a une compréhension de l'autre côté de savoir que tu sais je vais avoir des moments dans la semaine que des fois, j'ai des traitements de physiothérapie, des fois, je fais du chiro, de la muscu, de la course. Puis il y a jamais aucun moment où on me dit « Hey, là, c'est peut-être un petit peu trop » parce que tout est établi à l'avance. Puis c'est vraiment un win-win pour les deux. Là. Je pense qu'ils sont satisfaits de ce que je leur offre comme service. Puis, moi, je suis vraiment satisfait de l'horaire et des avantages qu'ils me donnent.
Là. Ah ben ça, c'est tant mieux. Puis c'est tout à ton honneur, tout d'abord, d'avoir obtenu ton bac et puis d'avoir commencé justement à préparer ton après-carrière pendant que tu joues. Parce que ça, c'est quelque chose que je dis aux joueurs des fois, à quel point c'est important de le faire. Je sais que c'est pas facile. Puis durant la saison morte, comme tu viens de le dire, tu dois te mettre en forme en vue de la saison qui s'en vient, mais de préparer ça pendant que tu joues, ben ça c'est toujours la meilleure option quand c'est possible. Alors chapeau à toi, Marco, d'avoir été en mesure de faire, de porter 2 chapeaux justement, celui de footballeur, mais également dans ta carrière professionnelle en ressources humaines. Maintenant, du côté du Rouge et Noir, bon, comme tu le disais, tu parlais, tu as commencé à travailler en ressources humaines au début de ta carrière, mais tu es un vétéran maintenant. Lorsque tu es arrivé, bon, il y avait plusieurs autres vétérans, notamment Antoine Pruneau, plusieurs joueurs du Québec au sein du Rouge et Noir. Mais comment, est-ce que tu sens une responsabilité de leadership au sein de la formation d'Ottawa maintenant que tu as de l'expérience derrière la cravate?
Absolument. Puis c'est sûr que là, maintenant rendu à ma sixième saison, je pense que je suis définitivement prêt à prendre ce rôle-là. J'ai été capitaine l'an passé. J'ai eu un rôle de leadership dans les dernières années, là, mais je sens vraiment que cette année, c'est l'année pour moi de prendre un step de plus, comme on dit. Puis tu parles des anciens comme Antoine Pruneau, Jean-Philippe Bolduc, Patrick Lavoie, avec qui je n'ai pas joué, mais j'ai fait beaucoup d'entraînement dans la saison morte. Puis c'est comme si j'ai vécu au travers de ces gars-là beaucoup, puis ils m'ont appris beaucoup de choses. Puis la culture francophone ici à Ottawa, c'est un concept qui a toujours été très important, puis j'essaie de préserver ça le mieux que je peux avec les autres coéquipiers que j'ai, parce que je pense que ça fait partie de la force du Rouge et Noir d'Ottawa d'avoir des francophones dans l'équipe. Je pense que c'est une organisation où ce que beaucoup de joueurs ont voulu jouer, non seulement avec les installations, mais la proximité, avec les fans qu'on a. T'sais, on a eu des saisons difficiles dans les dernières années, puis dernier match pré-saison qu'on a eu la semaine passée, il y avait 15 000 personnes dans les stades malgré tout, là. Donc c'est vraiment, on est choyé d'être ici. Puis quand tu parles d'une responsabilité de leadership, ben je pense que oui, effectivement, je suis prêt à relever ce défi-là. Puis j'ai eu beaucoup de bons mentors qui m'ont aidé à me préparer pour avoir ce rôle-là.
Ouais, et puis tu parlais de lorsque l'équipe connaissait plus de succès. Pour moi, le stade d'Ottawa, le stade de la Place Cédric, c'est mon stade favori dans la Ligue canadienne. Il y a une belle ambiance, il y a une belle foule lorsque l'équipe gagne. Et puis bon, il y a les restaurants et tout à proximité du stade. C'est vraiment un bel emplacement. Alors j'espère que vous allez pouvoir reconnaître une saison gagnante, justement, afin d'avoir de l'engouement encore une fois dans le stade, comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années à peine. Dis-moi, comme tu l'as dit, là, tu sais, 6 saisons dans la Ligue canadienne, c'est quoi le plus beau souvenir là, de ta carrière jusqu'à présent?
Ben, c'est sûr que de m'être fait repêcher en premier lieu, c'est un moment extrêmement marquant parce que je viens quand même de loin. Là, moi, ma dernière année universitaire, j'ai pas eu les plus grosses statistiques. J'étais plus un gars reconnu sur les unités spéciales. J'ai eu des hauts et des bas. J'ai déjà pensé arrêter à jouer au football parce que justement, il y a des parties que j'étais pas habillé à l'université à ma quatrième année. Ça a été vraiment la consécration de beaucoup de mois de travail et de résilience quand je me suis fait repêcher. Aussitôt, d'ailleurs, d'être le premier Québécois repêché de ma cohorte, c'est un accomplissement pour moi quand même. Puis je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui auraient misé là-dessus. Là. Puis pour ce qui est de ma carrière en tant que joueur, bien, c'est sûr que ma première saison en 2018, quand on s'est rendu à Coupe Grey, ça a été une saison vraiment incroyable. On était 12 Québécois dans l'équipe. C'était comme si je jouais au Rouge et Or, mais professionnel, parce qu'on avait vraiment une gang de boys incroyable. On avait un corps arrière avec beaucoup de leadership, Trevor Harris, qui nous a amenés jusqu'au bout. Puis on n'a pas gagné, là, mais ça a été vraiment une saison extraordinaire. On était très serrés dans le vestiaire. Puis c'est sûr que d'année en année, on essaie de recréer cette édition-là, mais chaque équipe a son histoire, là, mais il y a beaucoup d'ingrédients dans cette équipe-là de 2018 qu'il faut qu'on recrée cette année. Là. Mais ouais, la Coupe Grey 2018, ça a été vraiment un highlight. Ça a été le fun là, de partager ça, surtout avec beaucoup de chums là, de Québécois. Ça a été vraiment nice.
Ouais, et puis je suis surpris que tu m'as pas mentionné le toucher que tu as inscrit l'année dernière parce qu'on sait. Tu es un des meilleurs joueurs au niveau des unités spéciales de la Ligue canadienne de football, mais la saison dernière, tu as eu l'occasion d'inscrire le premier toucher de ta carrière. Dis-moi là, comment tu as vécu ça, puis c'était quoi les sensations que tu as ressenties lorsque tu as franchi la zone des buts?
Ouais, ce jeu-là, ça, c'était très spécial. Là. C'était un concept vraiment tout simple. Il fallait que je bloque soit si la personne qui me couvre blitzait, ben j'allais dans les flancs. On m'a juste lancé le ballon, j'ai tourné le coin. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui est quand j'ai le ballon dans les mains, j'ai quand même des skills, là, comme on dit, mais je suis pas un porteur de ballon non plus. Fait que la première chose que je me dis quand j'ai le ballon dans les mains, là, c'est courir le plus vite possible en ligne droite. Fait que j'ai tourné le coin. Puis je me suis rendu jusqu'à la zone des buts, puis j'étais vraiment, vraiment très proche de la ligne de côté. Fait que à un certain moment, je pensais que j'étais à l'extérieur du terrain, mais j'ai continué à courir quand même. Puis je suis rentré dans la zone des buts, j'ai vu que le toucher était bon. C'était vraiment surréel comme moment, c'était le fun. Au niveau personnel, c'est sûr que c'est un accomplissement qui est vraiment agréable, mais tu sais, moi, c'est pas nécessairement... C'est sûr que c'est le fun là, au niveau personnel, mais j'aime beaucoup bloquer aussi. J'aime beaucoup faire un gros plaqué sur un retourneur là, qui essaie de faire un retour au côté large du terrain. Là, je te dirais que c'est un feeling aussi qui s'équivaut pas mal à faire un toucher. Dans mon cas, moi, je sais que ça peut être bizarre pour certains joueurs de football, là, mais moi, c'est que j'ai tellement eu de fun à jouer sur l'unité spéciale dans les dernières années que c'est comme rendu... L'offensive, c'est vraiment un bonus pour moi. Là. Ben, c'est sûr que s'il me demande d'en faire plus, je ne dirais pas non plus. Là. Mais ouais, c'est ça. Ça a été un très beau moment, ouais, en effet.
Ben, je souhaite d'être utilisé un peu plus du côté de l'attaque. Ben, écoute, Marco, avant de se quitter, on va y aller de questions rapides, de questions éclairs. Je vais te poser des questions, puis dis-moi la première chose qui te vient à l'esprit. Est-ce que tu es prêt?
Yes.
Alors, dis-nous, quel est ton repas favori, ton cheat meal favori? Je sais que tu es un gars qui se tient en forme, surveille ton alimentation. Mais là, quand tu veux te gâter, c'est quoi ton repas favori?
OK, je dirais un Blizzard Oreo au Dairy Queen.
Oh, Dairy Queen, OK, c'est bon. Ouais. Quel a été ton premier emploi?
J'ai travaillé chez Jacques Moreau Sport au coin de ma rue à La Salle. On vendait des articles de football. C'est justement encore un magasin où que tous les jeunes peuvent aller se procurer de l'équipement de football.
Ah ben oui, bon, tu vois, il y avait déjà un lien avec le football à cette époque-là. Ouais. Quelle est ta méthode de relaxation favorite?
Je dirais lire un livre. Ouais, avant de me coucher, mettons là, si je veux être sûr d'être relax puis de dormir, là, c'est sûr que je vais me lire un livre puis ça va m'aider à me calmer.
Ottawa ou Québec? La ville de Québec, je parle. Là.
Québec. Mais là, c'est parce que j'aimerais ça élaborer, mais je peux pas. Là, c'est des questions rapides. Fait que
Québec. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Fait qu'on va passer à la prochaine question. Qui est le plus fort au développé couché, toi ou Anthony Gosselin, votre centre arrière?
C'est moi, sans l'ombre d'un doute.
Ah oui, sans l'ombre d'un doute, OK.
Ouais.
Pancakes ou gaufres? Des crêpes ou des gaufres?
Des crêpes, ouais.
Ouais, ah, ça c'est le bon choix. Ça, je comprends pas les gens qui préfèrent les gaufres aux crêpes, mais ça c'est peut-être juste moi. Juste moi et toi, peut-être.
Ouais c'est ça.
Qui est le joueur que t'as frappé le plus solidement au cours de ta carrière? C'est quelqu'un qui t'a frappé et tu t'as dit « My God, j'en reviens pas au... de l'impact.
» Ben, il y en a un que je frappe souvent, puis lui, il me frappe souvent aussi. Là. C'est tout le temps des bonnes batteurs. J'y lève mon chapeau, il est solide aussi. Là. Je pense qu'on s'est cogné une couple de fois, surtout quand on joue contre les Alouettes. Là. Alexandre Gagné, je dirais qu'on s'est cogné. Puis on va se recogner encore cette année à plusieurs reprises.
Ah, Capitaine Québec. C'est ça son surnom.
Ouais,
Capitaine
ouais.
Québec au sein des
Alouettes. Il a la tête dure.
C'est bon ça. Dis-moi, une émission de télé ou un film dans lequel tu aimerais avoir un rôle?
Breaking Bad.
Breaking Bad, tu serais vu dans Breaking Bad? Quoi, ouais, associé de Walter White?
Ben oui.
Et de Jesse?
Ouais, exact.
Okay. Ouais. T'aurais fait de l'argent, mais ton histoire serait peut-être mal terminée pour toi.
Ouais.
Maintenant, est-ce que le rouge et noir sera de retour en éliminatoire cette saison?
On n'a pas le choix. On a mis les ressources pour. On a le leadership pour le faire. Maintenant, je pense que c'était l'aspect dans lequel on avait le plus de lacunes. L'année passée, on n'avait vraiment pas de leadership dans l'équipe. On a fait l'addition de vraiment des joueurs qui vont amener beaucoup de leadership dans l'équipe, qui vont faire des jeux aussi. Ça fait partie du leadership, selon moi. Dominic Rimes, Darius Pickett. Je m'inclus là-dedans aussi. Je vais faire des jeux. On va tous faire des jeux, puis on va soulever l'équipe à un plus haut niveau, puis à des plus hauts standards, surtout, que ce qu'on a eu dans les dernières années.
Ben Marco, on te le souhaite. T'es un chic type. Alors, je te souhaite d'avoir une belle saison 2024. Et encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Didier.
Allez, porte-toi bien. Alors, c'était Marco Dubois du Rouge et Noir, c'est-à-dire de l'Université Laval, hein, tu vois. Je me mélange tout entre les deux, du Rouge et Noir, bien sûr, d'Ottawa. Alors, maintenant, ben, écoutez, on va parler des Alouettes brièvement, les Alouettes qui vont commencer en saison régulière jeudi soir à Winnipeg contre les Blue Bombers. Ce sera donc une reprise du match de la Coupe Grey que bien sûr les Alouettes avaient remporté. Il y a quelques nouvelles d'actualité. Bon, les Alouettes qui ont libéré Tevin Jones. Tevin Jones, c'est un ancien des Rough Riders à Saskatchewan que Montréal avait mis sous contrat durant la saison morte. Il était pressenti comme étant un remplaçant potentiel pour Austin Mack qui maintenant tente sa chance du côté des Falcons d'Atlanta dans la NFL. Alors, c'était surprenant de voir que Jones a été libéré, mais ça, c'est en raison de l'émergence du receveur de passe Charleston Rambo lors du camp d'entraînement. Rambo est une recrue, il a été mis sous contrat par les Alouettes au début du mois de mai, donc ça fait à peine un mois qu'il a été mis sous contrat par les Alouettes. C'est un ancien Hurricane de l'Université de Miami et il est très explosif. Il portait le numéro 76 lors du camp d'entraînement. Il a changé pour le numéro 14, le numéro justement que Tevin Jones portait. Alors, il est très rapide. Cette semaine, il s'entraîne au sein de l'unité partante. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir Rambo en action. Il pourrait vraiment te surprendre cette année. Il semble être une autre belle trouvaille de Danny Machocha et de ses dépisteurs. Et également, il semble que c'est Philippe Gagnon qui va être le garde à droite, partant au sein de la ligne à l'attaque. On sait que cette position-là, ben, ça fait des années, hein, bien sûr, que Christian Matt joue au sein de la ligne à l'attaque, soit en tant que garde, soit à la position de centre également. Pendant quelques années, il avait été le centre partant. Ben, là, il semble que Christian va commencer la saison à titre de réserviste, mais comme il l'a dit cette semaine après une séance d'entraînement, la saison, elle est très longue. Philippe Gagnon a bien joué l'année dernière à la fin du calendrier régulier et tout au long des éliminatoires. À ce moment-là, il remplaçait Pierre-Olivier Lestage à la position de garde à gauche. Alors, les services de Christian Matt, on va en avoir besoin éventuellement durant la saison, parce que la saison de la Ligue canadienne avec 18 matchs, c'est un marathon, mais tout porte à croire que c'est Philippe Gagnon qui sera le garde à droite partant pour la première rencontre à Winnipeg. Je vous le rappelle, c'est jeudi soir que ce match va avoir lieu et la rencontre sera présentée sur les ondes de RDS jeudi soir, oui, le 6 juin à 20h30. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. La reprise du match de la dernière Coupe Grey. Alors, j'y serai sur les lignes de côté, bien sûr. J'ai bien hâte de voir cette rencontre. Alors, via mes réseaux sociaux, je vous avais invité à m'envoyer une vidéo au cours de laquelle vous me posez des questions ou vous allez d'une analyse, vous passez un commentaire concernant soit les Alouettes ou la NFL. Alors, on n'en a pas reçu beaucoup, on en a reçu quelques-uns et on va répondre à vos questions étant donné que je vous avais dit via mes réseaux sociaux que j'allais répondre à vos questions. Alors, on va commencer, Guillaume, est-ce qu'on va commencer avec la question qui nous a été envoyée écrite ou par vidéo? Alors, on va y aller, oui, avec la question qui nous a été envoyée par vidéo. Regardons et écoutons ça.
Salut Didier, c'est Mickaël et Jules de l'Esprit Sportif.
On se demandait ce que tu pensais de la coupure de Tevin Jones avec les Alouettes et on se demandait aussi
quel Québécois va-tu surveiller cette saison dans la LCF?
Ben merci Mickaël et merci à ton compagnon également. Alors l'Esprit Sportif, je vous invite à suivre ce compte Instagram. Ils suivent beaucoup tous les Québécois là, qui jouent au niveau du football universitaire américain, bien sûr, universitaire canadien et à travers la Ligue canadienne de football. Alors, afin de vous tenir à jour, je vous invite à vous abonner au compte Instagram de l'Esprit Sportif. Mickaël et Jules font de l'excellent travail. Alors, Tevin Jones vient d'en parler. C'est l'émergence de Charleston Rambo durant le camp d'entraînement. Très rapide, plus jeune, également, il coûte moins cher. Hein. Jones est un vétéran de la Ligue canadienne. Alors ça, ce sont des facteurs qui ont fait en sorte qu'on lui a préféré Charleston Rambo, qui a été étincelant lors du camp d'entraînement. Pour ce qui est des Québécois que je vais surveiller durant la saison de la Ligue canadienne, ben j'en ai deux. Tout d'abord, Kevin Mittal, le receveur recrue des Argonauts de Toronto, un ancien receveur vedette du Rouge et Or de l'Université Laval. Il a inscrit un touché sur une distance de 82 verges, je crois, lors du dernier match préparatoire des Argonauts. Il est très talentueux. Marco Dubois, justement, m'en parlait là, lors du repêchage. Marco souhaitait voir le Rouge et Noir repêcher Mittal. Malheureusement pour lui, ils n'ont pas repêché l'ancien de l'Université Laval. Mais il est très talentueux. Alors oui, j'ai hâte de voir s'il pourra connaître du succès au sein de la Ligue canadienne. J'ai l'impression que oui. Il y a un autre receveur que je vais surveiller, un autre joueur, ben c'est Samuel Emilus des Rough Riders à Saskatchewan. Parce que Emilus avait très bien commencé la saison 2023. Malheureusement pour lui, il a perdu son carrière Trevor Harris. Alors Emilus qui est natif de la région de Montréal. Alors, je m'attends, si Trevor Harris peut rester en santé pendant toute la saison, je m'attends à toute une saison de la part de Samuel Emileus. Ça, c'est un joueur que dès que les Riders jouent à la télé, ben, je porte toujours attention à qu'est-ce qu'il fait. Alors, ça, ce sont les deux Québécois qui retiennent mon attention parmi plusieurs autres joueurs québécois à travers la Ligue canadienne cette saison. Maintenant, on va regarder la question qui nous a été envoyée par courriel. C'est une question qui nous vient de loin. Alors, Hervé, je t'écris de France, de la France. Une petite question sur Caleb Williams et la série Hard Knocks, étant donné que les Bears de Chicago, eh bien, vont être suivis par les caméras d'NFL Films au cours de leur camp d'entraînement dans la série Hard Knocks. Alors qu'on connaît le passé des Bears avec leur quart recrue et connaissant le personnage, est-ce que les Bears, le personnage, en parlant bien sûr de Caleb Williams, est-ce que les Bears font une erreur en le surexposant? L'aide-t-il à franchir le pas vers la NFL? C'est une très bonne question, ça, Hervé. Tout d'abord, merci de nous avoir envoyé cette question. Moi, je suis en faveur de ça, parce qu'il y a déjà beaucoup de pression sur les épaules de Caleb Williams. Beaucoup d'attention vont être portées sur les Bears de Chicago. On va en parler avec Renaud Bourbonnais un peu plus tard, d'ailleurs, des Bears et de Matt Eberflus, son entraîneur-chef. Écoutez, les Bears, pendant longtemps, la NFL Films, la NFL leur avait demandé de participer à Hard Knocks. Ils avaient dit non. Maintenant, ils disent oui. Faut faire attention avec ça, hein. Puis, il va y avoir beaucoup d'attention. Tout le monde va regarder afin de voir comment Caleb Williams va se comporter. Alors, je crois pas que c'est la meilleure idée de la part des Bears de Chicago avec un carrière recrue sur lequel il y a déjà beaucoup de pression. Comme Hervé l'a dit dans sa question, les Bears ont un très mauvais historique avec les jeunes cars. Je pense pas que c'est une sage décision, nécessairement, du côté des Bears de Chicago, d'avoir accepté d'être filmé par la série Hard Knocks. Mais on verra qu'est-ce que ça va donner un peu plus tard au cours de l'été. Alors, maintenant, il y a quelques nouvelles d'actualité du côté de la NFL avant d'aller rejoindre Renaud. Aujourd'hui, on a appris, on enregistre le podcast lundi soir. Alors, on a appris en journée que l'ancien garde des Cowboys de Dallas, Larry Allen, faisait partie de la dynastie des Cowboys durant les années 90, eh bien, a perdu la vie à l'âge de 52 ans. Larry Allen, si vous êtes trop jeune pour l'avoir vu jouer, c'est un joueur de ligne à attaque, mais c'est un joueur de ligne à attaque qui a des faits saillants, OK? Il était tellement dévastateur, un gros bonhomme très fort, pouvait soulever 700 livres ou développer couché au bench press. Il était rapide pour son cabaret. Écoutez, allez sur Instagram, tapez le nom de Larry Allen ou sur Google ou sur YouTube. Regardez ses faits saillants. C'est rare qu'on parle des faits saillants de joueurs de ligne à l'attaque. C'est à quel point il était athlétique et dominant. Et écoutez, il détruisait tout sur son passage. Malheureusement, il a perdu la vie à l'âge de 52 ans. Et maintenant, oui, du côté des Vikings du Minnesota, Justin Jefferson a fait sauter la banque. Il a signé un contrat de 4 ans, 140 millions de dollars, donc une valeur maximale de 140 millions de dollars avec les Vikings du Minnesota. Et puis, il va donc faire en moyenne 35 millions de dollars par année. Justin Jefferson, les 10 receveurs des Packers de Green Bay, j'ai trouvé cette statistique sur Twitter X aujourd'hui. Les 10 receveurs des Packers combinés ensemble vont faire 12 millions de dollars, alors que Jefferson va faire 35 millions de dollars par année. J'ai hâte de voir ça, parce que c'est beaucoup d'argent pour un receveur de passe aussi talentueux que Jefferson. Il est très spectaculaire. Mais est-ce qu'on veut utiliser autant de ressources financières à la position de receveur? C'est qui n'est pas nécessairement la position la plus importante sur le terrain, qu'on construit une équipe. On a d'autres besoins du côté des Vikings. Mais avoir Jefferson, lorsqu'on vient de repêcher J.J. McCarthy, ben ça donne une cible de luxe, tout simplement, pour notre carrière recrue du côté des Vikings. Alors, peut-être que ça va aider le développement de J.J. McCarthy. Un peu comme Stephen Diggs avait fait au début de la carrière de Josh Allen. Ça avait vraiment donné un coup de main au développement de Josh Allen. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais mon Dieu, 35 millions de dollars par année, wow! Mais tant mieux pour Justin Jefferson, qui, dès son arrivée dans la NFL, était un des meilleurs receveurs de passe de la Ligue. Il est jusqu'à ce jour. Alors, tant mieux pour lui, 35 millions par année, wow! Bon, alors maintenant, c'est le moment tant attendu. Renaud Bourbonnais qui va venir se joindre à moi afin de discuter, Renaud, des entraîneurs qui se retrouvent sur un siège éjectable. Je t'ai envoyé une liste de noms. Alors, on va passer cette liste tout à l'heure. Bon, j'ai mentionné le nom de Mike McCarthy, entraîneur-chef des Cowboys de Dallas. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il va se retrouver sur un siège éjectable dès le premier match de la saison régulière 2024.
J'étais d'accord avec cette affirmation il y a un an, donc oui, j'étais d'accord avec cette affirmation-là. Pour Mike McCarthy, écoute, pour les Cowboys, depuis quoi, 30 ans, depuis les années Larry Allen, justement, c'est un peu la même chose. Souvent des équipes très talentueuses, puis une fois que le mois de janvier arrive, les vrais Cowboys se présentent, s'écroulent puis et nous déçoivent. Et puis là, au début de la saison morte, rappelle-toi, Jerry Jones, un propriétaire qui est sorti en grand en disant que cette année, les Cowboys étaient all-in. Ils allaient tout faire pour que cette année soit l'année. Et qu'est-ce que ça a donné comme saison morte? Absolument aucune acquisition de marque sur le marché de l'autonomie. Aucune transaction non plus importante pour venir revigorer l'aliment des Cowboys. Moi, j'ai plus l'impression que le all-in de Jerry Jones voulait dire à Mike McCarthy et peut-être même à Dak Prescott dans une autre mesure, que c'est peut-être leur dernière chance là d'être les piliers des Cowboys et qu'on allait peut-être passer à une prochaine étape, prochaine génération si cet an-là, on n'était pas capable d'avoir de succès. Mais écoute, on peut pas dire qu'il a donné beaucoup d'aide à son équipe, comme je l'ai dit. Pas un gros recrutement pour les Cowboys durant la saison morte. Je vois pas en quoi cette équipe-là est meilleure que l'an dernier ou au cours des dernières saisons.
Ouais, du côté de Jerry Jones, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il se retrouve dans une situation difficile, hein, parce que oui, les Cowboys, comme tu viens de le dire, ils ont été critiqués, étant donné qu'ils n'ont pas été actifs via le marché des joueurs autonomes durant la saison morte, mais il y a des grosses prolongations de contrats qui s'en viennent. Dak Prescott pourrait devenir joueur autonome à la fin de la prochaine saison. C'est Dylan, bon, je viens de parler de Justin Jefferson qui a fait sauter la barre. Je peux être certain que Dylan célébrait aujourd'hui pratiquement autant que Justin Jefferson parce qu'il se dit, hey, là, on va devoir me donner quelque chose de similaire, un contrat similaire, parce que quand tu regardes les statistiques de Lem, elles sont similaires à celle de Justin Jefferson, malgré le fait que Jefferson a raté plusieurs matchs l'année dernière en raison d'une blessure. Michael Parsons, Renaud, on va devoir le payer aussi. Donc, c'est pour ça que les Cowboys n'ont pas été actifs via le marché des joueurs autonomes, parce que, écoute, on a des joueurs à payer. Ben oui, McCarthy se retrouve sur un siège éjectable, mais sais-tu quoi? Dak aussi. Dak Prescott est sur un siège éjectable. Parce qu'on lui a pas offert de prolongation de contrat encore. J'ai l'impression que du côté de la direction des Cowboys, on attend de voir est-ce que Dak va livrer la marchandise en éliminatoire tout d'abord. Faut se qualifier pour les éliminatoires, comme tu viens de le dire. On juge les Cowboys au mois de janvier. C'est lors des matchs éliminatoires qu'on va les juger. Alors, si on est, encore une fois, permets-moi l'expression en anglais, one and done. Si on participe aux éliminatoires, mais qu'on se fait éliminer immédiatement, moi, j'ai l'impression qu'on va passer un autre appel à la position de carrière du côté des Cowboys parce que encore une fois, Dak prend beaucoup de place sous le plafond salarial, au niveau de la masse salariale, et il est fait la marchandise en éliminatoire. Alors, Mike McCarthy sur un siège éjectable, son carrière aussi, pour la saison 2024. Maintenant, on va se transporter du côté de la Nouvelle-Orléans, Renaud. Dennis Allen, d'après toi, est-ce qu'il est sur un siège éjectable?
Moi, je pensais que les Saints allaient passer à autre chose après la dernière saison. Je te rappelle les événements du dernier match de la saison où on voulait poser un genou au sol pour terminer le match et que les joueurs ont décidé que on donne le ballon à Jamal Williams qui a pas marqué un toucher de l'année quand même. Donc déjà, c'est,
ils ont décidé moi, c'est que la section de jeu était de démocratie. Ils ont décidé que la saison.
Voilà.
C'est ça. On va courir, on va donner un toucher. Incroyable.
Ben exact. Donc c'est une situation assez cocasse. Les Saints s'en vont nulle part. Ils sont trop talentueux pour finir dans les bas-fonds de la NFL puis avoir un gros choix au repêchage. Ils sont évidemment pas assez talentueux pour aspirer au Super Bowl. Ils ont à peine le talent nécessaire pour aspirer aux grands honneurs à remporter leur division dans la saison régulière puis leur division est assez faible. Donc moi je pense que tout le monde sait que Dennis Allen est là de façon temporaire. Au sens où quand on va vouloir passer un autre appel chez les Saints, quand on va vouloir finalement libérer la masse salariale, passer un autre appel, passer à la prochaine génération, comme on aurait peut-être dû le faire depuis quelques années d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on le sait tous que Dennis Allen ne sera plus là. Donc oui, pour moi, il est là de façon temporaire chez les Saints. Donc évidemment, sur un siège éjectable.
Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. J'ai pas grand chose à rajouter. La seule chose, c'est que pauvre Dennis Allen, il met sur Derek Carr en tant que carrière. Derek Carr, je sais pas, tu regardes ses statistiques, tu dis, ah, ben, ça a d'allure, ça a du bon sens, mais toi et moi, on a l'occasion de travailler par moments ensemble au NFL Red Zone les dimanches. Puis Derek Carr livre pas la marchandise dans les moments clés de la rencontre, et en particulier près de la zone début. victime de revirement, il va de passe incomplète. Puis on voyait la même chose lorsqu'il portait les couleurs des Raiders. À ce stade de sa carrière, il ne va pas changer. Alors ça, c'est rien pour aider la cause de Derek Carr. Maintenant, Matt Eberflus. J'ai fait allusion à Matt Eberflus tout à l'heure. Est-ce que d'après toi, il va commencer la saison sur un siège éjectable parce que il a toujours pas été en mesure de mener les Bears à une participation en éliminatoire. Justin Fields n'est plus là. Alors, on lui a donné le tout premier choix du repêchage avec Caleb Williams. Alors, pour Matt Eberflus, est-ce que d'après toi, s'il connaît pas une bonne saison, si les Bears ne connaissent pas une bonne saison, ben, on va passer à un autre appel à Chicago.
Écoute, il est chanceux d'être encore en poste. Je pense qu'à un certain point, la saison dernière, si on l'avait congédié, je pense qu'il y a à peu près personne qui l'aurait défendu parce que ça faisait vraiment pitié en première moitié de saison à Chicago. Cette année, il n'y a plus vraiment d'excuses, là. Il va vraiment falloir qu'il performe. Surtout que l'an dernier, rappelle-toi, on a beaucoup investi sur la défense au cours du marché de l'autonomie. Ça a paru, je dirais, peut-être durant les matchs de deuxième moitié de saison, mais encore là, qu'est-ce que ça vaut quand les Bears étaient pratiquement déjà éliminé à la mi-saison. Et cette année, ben c'est en attaque, on le sait, avec Caleb Williams. On est allé chercher Keenan Allen. On a repêché Romo Dunze. On veut donner une attaque à Caleb Williams pour débuter sa carrière. DeAndre Swift qui va être là dans le champ arrière, qu'on dit qu'on veut utiliser à toutes les sauces là chez les Bears cette saison. Donc, selon moi, oui, il commence sur un siège éjectable, étant donné l'historique des dernières années. Mais personnellement, j'ai quand même... un certain vent positif. Là. Je pense que ça va bien se passer pour les Bears cette année, mais va falloir le voir pour le croire.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Matt Eberflus était l'entraîneur des demi-défensifs lorsque je jouais à l'Université de Toledo. Il est en charge également de l'unité de beauté de dégagement sur laquelle je jouais. Donc, je suis content pour lui qu'il ait été en mesure de devenir un entraîneur-chef après toutes ces années. Mais comme tu l'as dit, il y avait un moment l'année dernière, souviens-toi, là, on était certain qu'il allait perdre son emploi, mais les Bears se sont mis à beaucoup mieux jouer. Mais cette année, ça passe ou ça casse. Avec toutes les acquisitions, comme tu dis, qu'on a fait, Keenan Allen et tout, le repêchage de Caleb Williams, on n'a pas le choix de gagner à Chicago, mais je suis pas certain que cette équipe-là est construite pour connaître du succès à Chicago, surtout en fin de saison. On sait, c'est toujours venteux, il y a du temps froid. On a une équipe pour passer le ballon alors qu'il faut courir avec le ballon à Chicago. On n'a pas le choix. Et défensivement, ben, je suis pas convaincu que cette défense-là va être améliorée comparativement à l'année dernière. Oui, on a Montez Sweat qu'on avait on avait complété une transaction en fait d'amener à Chicago l'année dernière, mais est-ce qu'on a un autre chasseur de cartes pour lui donner un coup de main? Je crois pas. Hein. Du côté des Bears, on aurait pu repêcher un joueur de ligne défensive en première ronde à la part d'Odunze. On l'a pas fait. On a mis tous nos œufs dans le même panier. Alors ça va être une situation à surveiller, celle de Matt Eberflus à Chicago. Maintenant, Nick Sirianni. C'en a un autre, ça, qui avait des rumeurs qu'il allait être congédié après la saison, après l'élimination des Eagles de Philadelphie en éliminatoire. Alors, est-ce qu'il va être en mesure de survivre à la saison 2024, Nick Sirianni? Pourtant, les Eagles sont partis pour ce moment il y a deux ans, mais on est déjà prêt à plus sur le bouton de panique à Philadelphie.
Ils sont passés à une pénalité fantôme de gagner ce Super Bowl-là. Donc,
c'est mérité, la pénalité.
C'est un revirement de situation assez rapide. Ouais, exact. Avec Nick Sirianni, je trouve qu'au cours des deux dernières années, on a vu deux extrêmes. Et c'est le fait que ses émotions dictent beaucoup le ton avec l'équipe. Quand ça va bien, on dirait que ça attire tout le monde vers le haut. Quand ça va mal, comme l'an dernier, on l'a vu, on dirait que ça tirait tout le monde vers le bas. C'est une drôle de bibitte, Nick Sirianni sur le banc. On le voit souvent extrêmement émotif, réagir avec force, crier, courir, s'adresser aux partisans de l'équipe. Quand il est en visite sur la route, s'adresser aux partisans de l'autre équipe. On l'a déjà vu faire ça. C'est un cas qui polarise. Mais il a tellement de talent sur son équipe avec les Eagles qu'il n'a pas le choix de performer. Donc oui, je pense qu'un début de saison catastrophique des Eagles pourrait lui valoir son emploi. Maintenant, on verra ce qui va arriver. On s'entend dans la division. Tu as quand même des bonnes chances de l'emporter. On parlait des Cowboys tout à l'heure qui semblent être sur une année de stagnation. Ensuite, ben les Giants et Washington, c'est pas des équipes que j'ai très haut en estime. Je pense pas que toi non plus. Pour le moment. Donc voilà, je pense que les chances sont bonnes pour les Eagles de se rendre jusqu'aux éliminatoires. Ceci étant dit, un mauvais début de saison, puis les rumeurs de Nick Sirianni qui pourrait perdre son emploi vont revenir assez rapidement.
Ouais, puis on sait à quel point les partisans des Eagles sont impatients. Ils ont zéro patience. Ouais. Parce que imagine-toi, là, on parlait de le congédier à la fin de la dernière saison, moins d'un an là, après avoir mené l'équipe à une participation au Super Bowl. Ça va, encore une fois, je crois que son avenir va être lié avec la performance de son carrière. Jalen Hurts, en 2022, il avait été sensationnel. Ouais. L'année dernière, souviens-toi, toutes les semaines, on attendait de revoir une performance de la part de Hurts qui nous faisait penser aux performances auxquelles il nous avait habitués en 2022. Ça s'est jamais passé. Bon, jamais. Il est ennuyé par des blessures. Exactement. Il est ennuyé par une blessure à un genou, notamment. Donc, il semblait pas à l'aise, simplement. On a perdu les services de Jason Kelce au sein de la ligne à l'attaque. Mm-hmm. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Ça va passer par l'attaque des Eagles. Elle va devoir devenir plus explosive. On a adressé les besoins au niveau de la tertiaire du côté de la défense. Je pense qu'on va être plus solide défensivement. Mais est-ce que l'attaque peut être aussi bonne que l'année dernière? J'ai l'impression qu'on va être beaucoup misé sur le jeu au sol et Saquon Barkley. J'ai bien hâte de voir Saquon dans l'uniforme des Eagles de Philadelphie. On reste du côté de la section S de la Nationale. On se transporte à New York, les Giants, Brian Daboll, 2022. On a participé aux éliminatoires. Mais encore une fois, on s'en parlait durant la saison, toi et moi, lorsqu'on travaillait au NFL Red Zone les dimanches. On n'y croyait pas vraiment aux Giants. Mais le problème, c'est que les Giants, eux, ils ont cru à leur succès lorsqu'ils ont participé aux éliminatoires de justesse. Ils ont été très chanceux lors de cette saison. Ils ont même récompensé Daniel Jones en lui offrant, en lui donnant, oui, une prolongation de contrat. Donc Jones s'est blessé un genou la saison dernière, il ne jouait pas bien. Alors là, on va voir s'il sera prêt pour le début de la saison. Mais Brian Daboll, qu'est-ce qui arrive si on participe aux éliminatoires encore une fois à New York? Est-ce que Daboll va y copier selon toi?
Ben, je pense que oui, deux mauvaises saisons de suite dans la NFL, ça vient complètement effacer une saison, même si elle est digne d'un titre d'entraîneur de l'année. Et puis cette année, je pense que les Giants vont vraiment s'appuyer sur leur défense pour essayer de se relancer. On a vu la transaction pour aller chercher Brian Burns en Caroline. On va le jumeler sur notre front défensif avec Kayvon Thibodeau, avec un Dexter Lawrence qui a signé un gros contrat l'an dernier. Donc, on devrait avoir un front assez menaçant du côté de New York si tout le monde est en santé puis qu'on performe. Ceci étant dit, Brian Daboll, c'est supposé être un gourou de l'attaque. Depuis 2002, tous les emplois qu'il a occupés, ce sont des emplois sur des unités offensives. Et ça, je vois pas cette attaque-là bloquer cette année. Oui, pour une fois, on a enfin donné une arme digne de ce nom à Daniel Jones en termes de receveur avec Malik Nabers, parce que depuis des années, je trouve qu'on laisse traîner ça. On lui donne pas un gros receveur pour essayer de lui donner une chance là, de créer des jeux parfois dans les matchs. Donc, Malik Nabers, j'ai aimé l'ajout. Par contre, tu perds Saquon Barkley dans le champ arrière puis tu le remplaces par Devin Singletary. Oui, a connu une bonne saison à Houston l'an dernier, mais qui est quand même pas Saquon Barkley, là, c'est le cas de dire.
Oui. Maintenant, Doug Peterson, du côté des Jaguars de Jacksonville. Les Jaguars ont déçu l'année dernière, ils ne sont pas qualifiés en éliminatoire. À un certain moment donné, ils étaient en première position du côté de leur section. Je pense même qu'on avait un dossier de 6-2, si je ne me trompe pas, Renaud. On s'est complètement écroulé en deuxième moitié de saison. Trevor Lawrence, on disait de lui, un carrière de talent générationnel, ça nous laisse sur notre appétit là, les performances de Trevor Lawrence. Alors, il y a quelqu'un qui va écoper parce que on a beaucoup de talent du côté des Jaguars, mais on n'a pas été capable de se qualifier en éliminatoire. Généralement, c'est l'entraîneur-chef qui écope. Alors, est-ce qu'il est déjà sur un siège éjectable, Doug Peterson?
Ben, j'ai l'impression que oui, parce que tu vois, l'an dernier, parmi les difficultés qu'il y avait chez les Jaguars, bon, la tertiaire qui jouait mal, je vais donner ce qu'on appelle un mulligan parce que il n'y avait pas de talent dans la tertiaire. On manquait vraiment de talent du côté de Jacksonville. Par contre, en attaque, t'en as parlé, Trevor Lawrence n'a pas livré la marchandise. Moi, je trouvais qu'il était coupable de revirements un peu stupides à l'occasion, là, des revirements qui n'avaient pas lieu d'être sur le terrain. Du moins, pas pour un carrière de l'élite de la NFL. Et le jeu au sol était complètement invisible. L'an dernier, on a eu une seule performance d'un joueur de 100 verges, là, c'était Travis Etienne, puis c'était un match à Londres, là, donc dans les premières semaines de la saison. Après ça, on n'en a plus revu. Ça faisait pitié, puis Doug Peterson, un peu comme j'en parlais pour Brian Daboll tantôt, mais c'est un homme qui était réputé pour ses succès avec les unités offensives, donc j'ai hâte de voir comment il va pouvoir replacer. On s'est complètement fait damer le pion là, chez les Jaguars. On était supposé être l'équipe des prochaines 10 années dans la section sud de l'Américaine.
Puis à l'intérieur d'une seule saison, les Texans de Houston sont complètement venus leur voler ce poste-là.
Oui, c'est très vrai. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il y a un joueur qui va devoir, là, ça va être sa troisième année, il va devoir afficher de meilleures statistiques, il va devoir devenir un joueur d'impact. C'est Travon Walker, l'ailier défensif qui avait été le tout premier choix du repêchage il y a quelques années. Hey, on aurait pu repêcher Aiden Hutchinson. Souviens-toi, il y avait un débat, Aiden Hutchinson ou Travon Walker. Aiden Hutchinson avait été beaucoup plus performant dans les grands universitaires à l'Université de Michigan. Il avait été beaucoup plus productif, alors que Walker, on l'avait repêché sur son potentiel, hein, son gabarit et tout ça, sa rapidité. Mais encore une fois, il n'avait pas été très productif avec les Bulldogs de Georgia. Il n'est pas très productif. C'est pas un mauvais joueur. Lorsque tu es le premier choix du repêchage, il faut que t'en donnes plus. Tu dois être plus productif. Alors, ça va être observé. Moi, parce que naturellement, Trevor Lawrence et Travon Walker également à surveiller. Ces deux joueurs-là ont besoin lors de grosses saisons pour que Doug Peterson soit en mesure de sauver son emploi. Il y a Robert Saleh, mais je pense qu'on s'entend qu'il est sur un siège éjectable. Robert Saleh des Jets de New York. Aaron Rodgers participe aux entraînements des Jets durant la saison morte. On se souviendra qu'il avait subi une déchirure à un tendon d'Achille après 4 jeux lors du tout premier match seulement. En plus de ça, je me trompe pas, les Jets vont jouer lors du premier match du lundi soir cette année. Alors la NFL s'est dit, on recommence. Ça n'a pas fonctionné l'année dernière. Robert Saleh, moi, je trouve ça un mauvais entraîneur-chef. L'année dernière, il nous a démontré que ce n'est pas un leader. Sa prise de décision à la suite de cette blessure à Aaron Rodgers, de la façon dont il a géré ou il n'a pas géré Zach Wilson, puis les réponses qu'il donne lors des points de presse, c'est pas un leader pour moi, un Robert Saleh. Alors, pour moi, en tout cas, il n'y a aucun doute qu'il est sur un siège éjectable. Pour toi, qu'est-ce que tu penses de sa situation?
Ben, je pense que les Jets ont tout simplement les mains menottées dans la situation de leurs entraîneurs, au sens où l'an dernier, quand on a fait le recrutement pour Aaron Rodgers et tout, écoute, c'était quand même un gros profil de joueur qui déménageait dans la NFL. Donc lui, il avait le luxe de choisir où il allait, donc il voulait choisir son entraîneur et tout. Et là, il s'est blessé au premier match de la saison. Ça a été la saison catastrophique qu'on connaît. Et là, ben, il dit qu'il revient la saison suivante, donc la saison qui s'en vient. Ben, les Jets peuvent pas tout congédier tous les gens avec qui Aaron Rodgers avait dit qu'il voulait travailler et que c'était la raison pour laquelle il viendrait à New York. Ça rend la situation un peu bizarre pour tout le monde parce que sinon, je suis pas mal certain que Robert Saleh, soit en cours de saison ou à la fin de la dernière saison, il aurait perdu son emploi. Et là, je regarde le début de saison des Jets. C'est quand même un début de saison prenable. C'est sûr que la première semaine, ils sont à San Francisco, ça va être difficile. Mais ensuite, au Tennessee, à la maison contre la Nouvelle-Angleterre, à la maison contre Denver et au Minnesota. Selon moi, si on va pas... Idéalement, ils iraient chercher 4 victoires là, sur ces 5 matchs-là, mais s'ils vont pas en chercher 3, je pense qu'on va passer à un autre appel rapidement là, du côté de New York.
Oui, ça pourrait se faire très rapidement du côté des Jets. On va voir si Aaron Rodgers va pouvoir rester en santé aussi. Là. Généralement, écoute, il va avoir 41 ans. Et généralement, lorsque tu reviens d'une blessure à un tendon d'Achille, bon, des fois, tu as peut-être des troubles avec d'autres parties de ta jambe qui tentent de compenser et tout. À 41 ans, je me souviens pas là, d'avoir vu un athlète qui a subi ce genre de blessure-là et revenir et être étincelant. Donc, j'ai bien hâte de voir ça, Aaron Rodgers. Hey, parlant de blessure, j'ai passé à 2 doigts de subir une grosse blessure à Ottawa vendredi soir dernier. Donc,
oui, match
à
des
adresses.
Tremendous quickness there by Didier Armajust.
Okay? Puis il ralentissait après avoir échappé une passe. Là, il y a un joueur des Alouettes qui l'a poussé. Là, il se dirigeait directement vers mon genou droit. Je ne sais pas si on peut le revoir encore une fois. Mais il se dirigeait directement vers mon genou droit. Écoute, j'ai envoyé ma jambe droite vers l'arrière. Et oui, d'entrer en contact avec ma jambe, mais le fait que ma jambe allait vers l'arrière, ben ça amortit finalement l'impact. Et s'il avait fallu que ma jambe reste plantée au sol, ouf, que j'aurais perdu mon ligament croisé antérieur, peut-être une fracture à une jambe. Bref, tu vois, c'est ça que je te dis. Il a commencé à ralentir, il s'est fait pousser dans le dos. Bref, j'ai eu la frousse, Renaud. Puis écoute, toi, t'es habitué, t'as travaillé sur des lignes de côté à Ottawa, justement, à l'époque, lorsque tu travaillais à la radio dans la région d'Ottawa. Donc, tu sais, il faut être alerte en tout temps lorsqu'on est sur les lignes de côté.
Ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est vrai à l'entraînement aussi. Mais pendant les matchs, non, t'as raison. Un joueur qui ralentit, c'est pas un signe suffisant là, pour te donner le droit de penser que ça va pas se rendre jusqu'à toi. Là, les joueurs arrivent vite. Puis on envoie tous les ans des caméramans dans la zone des buts ou des photographes qui se font frapper. Puis bon, plus souvent qu'autrement, c'est plus peur que de mal. Puis tant mieux que ce soit encore ça dans ton cas. Mais écoute, ça prenait un athlète naturel. La meilleure qualité, c'est la disponibilité. Et là, tu vas être disponible toute la saison. Ça aurait été un long été.
Oui, un long été, tu dis, mon Dieu, je ne veux même pas m'imaginer ça aurait été quoi si je m'étais blessé. Là. Bon, plus peur que de mal dans mon cas à Ottawa. Bon, ben, écoute, Renaud, hey, je te remercie. Hein. Je sais que tu es occupé. Alors, je te remercie de ton passage au podcast. On se reparle prochainement avec le début de la saison régulière des Alouettes. Alors, on va se croiser aux entraînements des Alouettes. Ça n'y a aucun doute là-dessus.
Absolument. Salut Didier.
Hey, salut Renaud. Alors maintenant, on va se tourner du côté du fantasy football et de la NFL. Alors, on vient de parler, bon, bien sûr, des entraîneurs qui se retrouvent sur des sièges éjectables. On va accueillir Marc-André Chaloux afin de parler ben, justement de la position de carrière. Hein, t'as vu, bon, lorsque je parlais avec Renaud, l'avenir de plusieurs entraîneurs-chefs est directement lié avec les performances de leur carrière. C'est la même chose au fantasy football, d'une certaine façon, pour les propriétaires d'équipes fantasy football. Son carrière ne performe pas, ouf. C'est difficile de connaître une bonne saison. Alors, tu nous as préparé ton classement des meilleures carrières en termes de fantasy football, selon toi, en vue de la prochaine saison.
Selon moi, mais je me suis également basé sur le site Fantasy Pros pour vous présenter les classements fantasy en date du 3 juin, on enregistre, pour le dire, du 3 juin 2024, Didier, et on commence par le top 10. Vous allez voir le top 10 pour ceux qui nous regardent via YouTube. Mais en position 1, nous avons Josh Allen. En position 2, Jalen Hurts. En 3, Patrick Mahomes. En 4, Lamar Jackson. En 5, CJ Stroud. Il y a vraiment un top 4, selon moi, qui se détache du lot. Allen, Hurts, Mahomes, Jackson, c'est la crème de la crème à la position de carrière en 2024. CJ Stroud, c'est un peu plus débattable. Mais je veux vraiment m'attarder sur Josh Allen, Didier, lors des 4 dernières saisons. Il a terminé carrière numéro 1 au niveau fantasy, carrière numéro 1 au niveau fantasy, carrière numéro 2, carrière numéro 1. On peut difficilement demander mieux à Josh Allen au niveau fantasy. La grande question dans son cas cette année, c'est est-ce qu'il va demeurer productif avec les pertes de Stephon Diggs et Gabriel Davis? La question qu'il faut se poser, c'est que l'an dernier, Didier, on a vu quand même un changement de philosophie dans l'attaque des Bills avec l'arrivée de Joe Brady. Lors des 9 premières semaines d'activité, Josh Allen courait en moyenne 4,89 courses en moyenne par match. Et à partir de la semaine numéro 10, ça a été 8,38. Ça, à partir de la semaine numéro 10, ça a quand même coïncidé avec le déclin de la production de Stephon Diggs. Il est touché au sol, on passait de 0,67 à 1,13. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que oui, il y a des armes en attaque dans le jeu aérien qui sont parties de Buffalo, mais ça me dit qu'on risque de voir davantage de courses planifiées avec Josh Allen, puis ça, c'est intéressant. Donc une augmentation des courses de Josh Allen, il va demeurer vraiment une arme fantasy. Il va avoir du succès fantasy. Est-ce qu'il mérite d'être le numéro 1 au total au niveau fantasy? Ben, je crois que oui.
Ouais, puis j'ai l'impression que qu'est-ce qu'on a vu lors de la deuxième moitié de la saison, là, ce virage vers le jeu au sol, ça va être la suite de ça qu'on va voir cette année. On a échangé Stephon Diggs. On mise sur deux excellents ailiers rapprochés en Dalton Kincaid et Dawson Knox. Alors, on peut utiliser des formations avec deux ailiers rapprochés, courir avec le ballon. Je pense qu'on va assister à une certaine transformation du côté de l'attaque des Bills. Parce que cette attaque-là était construite comme une équipe intérieure, là, comme une équipe qui joue dans un stade couvert. On misait sur la rapidité, formation avec 3 receveurs de passe très souvent. Mais encore une fois, j'oublie quelle équipe que je parlais un peu plus tôt, des Bears de Chicago. Les Bears, on dirait qu'ils vont être construits comme ça en 2024. Mais quand tu joues à Chicago et à Buffalo, t'as besoin d'avoir le jeu au sol. T'as pas le choix en raison de la température. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Je pense que la production de Josh Allen au sol, ça va se poursuivre. Maintenant, quelle est l'autre carrière que tu veux nous parler?
À la position 6, si on revient dans notre classement fantasy, nous avons Anthony Richardson. On en a parlé d'Anthony Richardson il y a quelques semaines. Beaucoup de potentiel dans son cas. À la position 7, nous avons Joe Burrow, le quart des Bengals. À la position 8, Dak Prescott. À la position 9, Kyler Murray, le quart des Cards. Et à la position 10, Jordan Love, le quart des Packers. Et je veux vous parler de Dak Prescott ici parce que je trouve que la position 8, c'est vraiment intéressant dans son cas, Dak Prescott. Il a terminé comme quart arrière numéro 3 la saison dernière au niveau fantasy. Il a lancé 36 passes de toucher. Un sommet dans la NFL pour un quart. Et de la semaine numéro 6 à la semaine numéro 13, il a terminé 6 fois dans le top 4 en 7 semaines. Et ça, ça a coïncidé également. Ça allait être concert avec les succès de CeeDee Lamb. Il a vraiment pris CeeDee Lamb et Dak Prescott ensemble ont vraiment pris leur envol au niveau fantasy à partir de la semaine numéro 6. On est encore grillé, vous en avez parlé tantôt en parlant de Mike McCarthy, on est encore grillé par la passe en bon québécois. On n'a vraiment pas fait d'acquisition au sol. On a rapatrié Ezekiel Elliott, c'est pas mal tout ce qu'on a fait. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'on va passer à outrance à Dallas encore une fois cette saison. Il a terminé carrière numéro 3. Il pourrait s'infiltrer, selon moi, dans le top 5 à la position assez facile.
Maintenant, on va continuer de regarder ton classement des carrières. Quel est le prochain carrière sur lequel tu te concentres?
À la position numéro 11, nous avons Brock Purdy. À la position numéro 12, Tua Tagovailoa. À la position numéro 13, la recrue Caleb Williams. À la position 14, Jared Goff des Lions de Détroit. À la position numéro 15, Justin Herbert. C'est un petit groupe de 5, un petit quintet que j'aime beaucoup. Ça démontre à quel point il y a de la profondeur à la position de quart au niveau fantasy. Pour moi, pourquoi dépenser un choix de 5e, 6e ronde pour un gars comme CJ Stroud quand on peut repêcher en 10e, 11e ronde un quart à la position numéro 11 comme Brock Purdy qui va, selon moi, essentiellement peut-être donner le même genre de production à la position de carrière. Mais je veux m'attarder à Jared Goff en position 14, Didier. Une statistique intéressante, les Lions cette année, Didier, vont seulement disputer 3 matchs à l'extérieur. Et l'an dernier, les autres matchs, ça sera dans des dômes, dans des stades couverts. Et l'an dernier, en 2023, les Lions ont disputé 14 matchs dans un dôme. Jared Goff, 28 passes de toucher, seulement 8 interceptions, une cote d'efficacité de 106,4. C'était bon pour le 5e rang dans la NFL. Et lorsqu'il a joué dehors, comme on dit, à l'extérieur, il y a eu 5 matchs, 5 passes de toucher seulement contre 4 interceptions, et une cote d'efficacité de 82, ce qui est environ le 21e rang dans la NFL. Donc, il y a corrélation ici. Plus Jared Goff, c'est un quart qui aime plus ou moins jouer à l'extérieur, qui aime les dômes, aime les stades couverts. Il va en avoir vraiment énormément cette année. Il n'apporte rien au sol pour votre équipe fantasy, mais on a amélioré la ligne à l'attaque du côté des Lions. On a une bonne ligne à l'attaque. On devrait avoir du succès par la passe. En termes de streamer, là, en termes de quart qu'on ajoute pour une semaine en particulier, ou qu'on peut laisser sur notre banc et on peut insérer Jared Goff dans des semaines particulière durant la saison, mais je pense que Jared Goff peut être un bon parti au niveau fantasy.
Un peu plus tôt au cours de l'épisode, je parlais de Justin Jefferson qui a fait sauter la banque, mais Jared Goff a fait sauter la banque aussi, là, lui, il y a quelques semaines, il a obtenu une belle
prolongation. Amon Ross St. Brown aussi, quand même.
Bon, Monroe, oui, ben c'est ça, on a récompensé nos joueurs hein, du côté des Lions de Détroit. Mais pour Jared Goff, c'est mérité. Hein. Souviens-toi, lorsque les Rams avaient échangé, pas les Rams, oui, c'est les Rams là, pour qui ils jouaient. Lorsque les Rams ont échangé à Détroit en retour de Matthew Stafford, on se disait, bon, ben, il va être là le temps que les Lions repêchent une autre carrière. Puis non, finalement, Jared Goff, il s'est amélioré, il a continué de travailler, puis il est rendu une carrière solide. Il est bien entouré à Détroit, c'est une équipe talentueuse, mais quand même, on peut donner crédit. Maintenant, on quel est le...
C'était peut-être Aiden Hawker qui allait être le quart, ou à tout le moins le quart partant des Lions pour les prochaines années, mais finalement, non. On a décidé de se raviser, puis on prend Jared Goff pour quelques années encore.
Non, que ça, j'ai jamais cru à cette affaire-là là, d'Aiden Hawker. Il était blessé l'année dernière, en fait, il s'est blessé lors de sa dernière année à Tennessee, si je me souviens bien. Et c'est une carrière qui est vieux là, dans les rangs universitaires à côté. Il était déjà rendu à 26 ans, je pense, lorsqu'on l'a repêché. Ouais. Ça, j'ai jamais cru à ces rumeurs-là. Puis clairement, Jared Goff non plus, il croyait pas. Maintenant, quel est le dernier carrière qui retient ton attention dans ton classement?
Ben, on va compléter le top 20. À la position numéro 16, nous avons la recrue Jaden Daniels des Commanders de Washington. À la position 17, Didier, 17, je répète, 17 pour Trevor Lawrence, le quart des Jaguars de Jacksonville.
Ah,
la position
18,
nous avons... Oui, absolument. C'est fou à quel point on croyait que que Trevor Lawrence allait être une valeur sûre, tant au niveau de la NFL et au niveau de Fantasy. Et écoutez, c'est l'an 4 cette année pour Trevor Lawrence. S'il explose enfin sur la scène Fantasy, ben ça peut être une méchante belle valeur en ce moment parce qu'il est dans des pôles, dans des ligues à 12 équipes. Vous verrez Trevor Lawrence même pas repêché dans la plupart de vos ligues, donc ça va être fascinant. À la position 18, nous avons Kirk Cousins, le nouveau quart des Falcons d'Atlanta. À la position 19, Matthew Stafford. Et à la position numéro 20, Aaron Rodgers. Je vais m'attarder à Kirk Cousins, évidemment. Et à la position 18, pour moi, représente en ce moment une belle valeur au niveau fantasy. Est-ce qu'il est en santé? C'est la grande question. Mais je ne pense pas que Michael Penix, ce sera pour cette année au niveau chez les Falcons. Et vraiment, on fonde beaucoup d'espoir en Kirk Cousins du côté des Falcons. On aimerait qu'il fasse produire nos trois choix de top 10 des trois dernières années. Kyle Pitts, Drake London et Bijan Robinson. Et Kirk Cousins a terminé dans le top 12 à la position de carrière. Donc ça, c'est un quart numéro 1 qu'on dit au niveau fantasy. Dans 6 des 9 dernières saisons, en moyenne, il a récolté plus de 4000 verges par année, 28 passes de toucher. Et ça, c'est bon pour le 10e rang au niveau fantasy. Comme Alain, l'année passée, il a lancé 18 passes de toucher en 8 matchs. Les Falcons, les quarts des Falcons, en ont lancé 17 durant toute la saison. Donc oui, pour moi, il y aura vraiment une amélioration de la production offensive du côté des Falcons. Puis justement, je pense que Kirk Cousins pourrait connaître une belle saison avec sa nouvelle équipe.
Oui, ça c'est s'il demeure de carrière partant pendant toute la saison.
Je pense que Michael Penix va... Ah oui?
On va voir qu'est-ce qui va arriver, mais... Déjà que ça a été surprenant que les Falcons repêchent Phoenix. Si Kirk Cousins, ça va pas bien, est-ce que tu serais surpris si on envoie Phoenix dans la mêlée? Ce sont les Falcons Atlanta, là. C'est pas comme si ils savaient réellement qu'est-ce qu'ils faisaient. Là, on l'a vu lors du repêchage. Parce que Kirk Cousins, encore une fois, comme Aaron Rodgers, il est rendu à un stade de sa carrière où revenir d'une déchirure à un tendon d'Achille, c'est loin d'être facile, mais il n'y a pas juste ça, Marc-André. Il joint une nouvelle équipe. Donc, ses coéquipiers, là, ils lui doivent rien. Tu comprends? Ils ont jamais joué avec lui. Ils ont pas connu de succès avec lui. C'est pas comme s'il était toujours au Minnesota. Si Michael Penix paraît mieux durant les entraînements, là, que Kirk Cousins, et Penix est très talentueux en tant que passeur, les joueurs vont commencer à se dire entre eux, hey, peut-être qu'on devrait faire jouer la recrue. As-tu vu les passes qu'il a complétées lors de l'entraînement? Eux, ils doivent rien à Kirk Cousins. Ils ont jamais joué avec lui. Donc, le repêchage de Phoenix, après avoir donné ce contrat-là à Kirk Cousins, c'est courir après le trouble du côté des Falcons. Dans le vestiaire, là, le vestiaire pourrait être divisé ou le vestiaire pourrait être en faveur de Phoenix si Cousins ne performe pas dès le début. Il va devoir se prouver à ses nouveaux coéquipiers, parce que oui,
mais je pense encore que quand tu gagnes, quand tu signes un contrat avec autant d'argent, j'imagine que, en tout cas, la liste est vraiment plus longue dans ces cas-là.
Mais quand tu signes lorsque tu donnes un contrat de 90 millions en carrière, généralement tu vas pas repêcher un autre carrière en première ronde. C'est ça que j'essaie de te dire. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens.
Ah, mais ça, c'est un autre débat.
Bénéfice du doute. On peut pas leur donner le bénéfice du doute. Ils pourraient remplacer Cousins durant la saison par Phoenix. Ils ont déjà repêché Phoenix. Ça fait aucun sens.
Qu'est-ce que les Falcons font, jouent au fantasy football durant la saison. Durant le repêchage.
Ouais. Même là, tu peux. Même au fantasy football, à moins que tu joues dans une ligue avec deux carrières, t'en fais juste jouer un, t'as besoin d'en repêcher un autre. Même au fantasy football, ça fait pas de sens, Marc-André.
Ouais, quand j'y pense, ouais. Peut-être un, là, justement, un Jared Goff que tu peux insérer de temps en temps selon les semaines. Ouais, mais oui, t'as raison, Didier. Mais j'ai bien hâte de voir parce que Kirk Cousins, ça demeure un corps précis. Ça demeure, je pense que ça va vraiment. Être bénéfique surtout pour Drake London là, qui est en train de est en ascension fulgurante dans les classements fantasy à la position de receveur. Donc j'ai bien hâte de voir les Falcons, j'ai surtout bien hâte de voir le camp d'entraînement puis voir Michael Penix parce que lui aussi il était blessé au niveau universitaire, c'est un peu ça qu'on lui reprochait aussi son. Donc j'ai bien hâte de voir comment que ça va se développer. Ça va être un camp intéressant, celui des Falcons, ça c'est sûr.
Définitivement. En tout cas, chouette que ça fonctionne là, du côté d'Atlanta, parce qu'il y a Mathieu Bergeron qui joue avec les Falcons d'Atlanta. Puis naturellement, on ne va pas se cacher du moment qu'il y a un Québécois qui joue pour une équipe de la NFL. On lui souhaite d'avoir du succès individuel, mais également avec son équipe. Mais en tout cas, je ne suis pas certain. Je suis pas certain de la stratégie des Falcons.
À suivre. Bon,
Marc-André. À suivre, exactement. À suivre. Mm-hmm. Ben écoute, hey, je te remercie pour ta chronique hebdomadaire Fantasy Football. On espère que cet épisode du podcast Sac du Cœur vous a plu. Si vous nous avez écouté ou si vous nous avez regardé via ma chaîne YouTube, ben, je vous remercie et je remercie également Guillaume. C'est lui qui prépare tous les beaux tableaux que vous avez vus et qui fait beaucoup de choses derrière le rideau. Alors, gros merci à Guillaume. Alors, encore une fois, j'espère que vous avez aimé cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. On se reparle la semaine prochaine alors que les Alouettes auront joué un match. La saison des Alouettes commence jeudi soir à Winnipeg contre les Blue Bombers. Alors, on verra quel sera le résultat de cette rencontre. On va en discuter la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien.